Merci d'écouter France Inter, 19h23.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir avec un nouveau volet de notre série consacrée à ce que nous avons appelé la campagne invisible. Ces sujets majeurs qui ne suscitent pas ou peu de débats dans cette présidentielle. Aujourd'hui, l'écologie et l'environnement. On a l'impression de vivre dans un autre pays que celui qui avait organisé la COP21 à Paris en décembre 2015. À la télévision, lors du débat des 11 candidats, pas un mot sur le sujet. C'est d'autant plus étrange que tout le monde a fini par comprendre qu'il y avait le feu au lac et qu'il était grand temps d'agir en profondeur, d'autant plus étrange aussi que certains candidats ont des propositions extrêmement robustes, structurées, ambitieuses en la matière, mais là encore, chacun reste dans son couloir. Vos questions jusqu'à 20h, intervenez au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et je salue Bruno qui nous appelle de Toulouse. Première question dans ce téléphone sonne. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Je voulais simplement dire mon étonnement, mon agacement et ma désolation de voir que les candidats tels quels qu'ils soient, effectivement, n'abordent pas cette question essentielle qui est celle de l'écologie. Il en va de l'avenir de notre pays, de la planète, dans les 50 ans, 100 ans qui viennent, et on n'en tient pas compte. Et on s'en tient à des choses qui certes sont importantes, tout ce qui tourne autour de l'économie, etc., mais il n'y a pas que ça. Mmh. Et je trouve que c'est irresponsable, et finalement, je me dis, on aurait besoin de sages à la tête d'un pays comme le nôtre, et on n'a que des gens qui pensent pour eux-mêmes,
Et qui pensent le court terme, d'après vous, Bruno ?
Qui pensent le court terme ? Alors, le court terme, oui et non, concernant l'économie, c'est vrai que on est obligé de penser à court terme pour pouvoir agir sur le long terme. Mmh. Il n'empêche que concernant l'écologie, effectivement, ça passe complètement inaperçu et invisible. Mmh. Je trouve que c'est dramatique.
Merci Bruno pour cette question et cette intervention qu'on va soumettre à nos deux invités. Dominique Bourg, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, vice-président de la Fondation Hulot, auteur du Dictionnaire de la pensée écologique publié aux Presses universitaires de France. Cyril Cormier, bonsoir.
Bonsoir.
Chargé des questions énergie et climat à Greenpeace. Première question dans le sillage de celle de Bruno. Je ne pense pas être devenu fou en disant, Dominique Bourg, qu'il n'y a pas eu de débat sur ces sujets-là pendant la campagne.
Non, c'est d'autant plus étonnant qu'en fait, c'est quand même au cœur du programme de certains candidats.
Mais voilà.
C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas de Benoît Hamon. Même pour Benoît Hamon, ça a vraiment un sens très particulier parce que on pourrait imaginer que c'est une espèce de basculement par rapport à la stratégie qui avait été celle du PS jusqu'alors. Et vraiment, leur programme, il s'organise autour de l'écologie. C'est-à-dire, on reconvertit l'économie en fonction de l'écologie. Donc c'est vraiment le cœur, le centre de leur programme. Et pour juste une contradiction quand même par rapport à ce qu'a dit Bruno, tout ce qu'il a dit est très bien, mais il y a là une chose où lui-même aussi, il amoindrit un peu les choses. C'est pas dans 100 ans. Attendez, là aujourd'hui, par exemple, prenons par exemple un très bel article de James Hansen, mais il y a Valérie Masson-Delmotte qui a contribué, qui est paru en mars 2016. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le paléoclimat, enfin dans le passé de la Terre, si vous voulez, avec le niveau de température qu'on va atteindre, eh bien, très très étonnant, mais vous avez eu une augmentation du niveau des mers de plusieurs mètres en quelques décennies, avec des vagues gigantesques. C'est simplement pour donner un exemple. Mmh. Donc, les choses sont en train d'augmenter, les dégâts sont en train de venir, les gens en entendent parler, etc. On voit bien que maintenant, c'est un sujet sur lequel, si vous voulez, il faut agir dans les 10 ans qui viennent. C'est pas dans les 100 ans qui viennent.
Et donc, pour aller dans votre sens, ce devrait être l'un des débats les plus importants, les plus cruciaux de cette élection présidentielle. Et je dirais même de toute élection dorénavant.
Absolument. Et en plus, quand on met l'économie au centre, c'est très sympathique. Mais justement, précisément, l'économie doit se repenser en fonction de ces sujets. Et on l'entend jamais. C'est assez étonnant.
Cyril Cormier, votre analyse de l'état du débat ou du non-débat en France ?
Oui, effectivement, on constate d'une part que c'est vrai que l'écologie est rentrée dans les programmes. Elle est au cœur de certains programmes, particulièrement ceux de Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, dans une moindre dimension, celui d'Emmanuel Macron. Et avec encore des réticences du côté du candidat Fillon ou Le Pen, mais ce que l'on ne comprend pas, c'est où est la dimension d'urgence, en fait. Mmh. Effectivement, sur les dérèglements climatiques, on le connaît, depuis la COP21, les Français sont au courant.
Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, sociale et civique
effectivement, du problème. Sur les crises agricoles qu'ont traversé le quinquennat précédent, là encore, il y a des réponses à apporter aux agriculteurs, mais aussi aux consommateurs, sur une agriculture nourricière, rémunératrice, mais aussi une alimentation saine. Et pourtant, on ne voit pas dans le débat, effectivement, apparaître. Il y a des clivages dans les programmes, il y a des intentions fortes, mais on ne voit pas apparaître ni sur la manière avec laquelle le programme économique de la France est transformé. On ne va pas consommer de la même manière, on ne va plus produire de la même manière quand on prend en compte les crises agricoles, les crises climatiques, les crises environnementales. On ne voit pas émerger ce débat sur le contenu économique et on ne voit pas non plus apparaître le débat alors qu'il y a des clivages très forts entre les candidats de droite ou d'extrême droite et les candidats de gauche. Ce qui est dommage parce que ces mesures environnementales, cette politique environnementale, cette transformation du modèle économique apporte des réponses autant sur l'environnement, sur les questions sanitaires que sur les grandes problématiques sociales que sont le chômage, l'exclusion, les discriminations. Donc il y a un vrai boulevard de transformation du programme politique en France et de la politique sociale et énergétique en France liée aux problématiques environnementales. Et c'est effectivement dommage d'être frustré à ce point de débat.
On va retourner évidemment au standard, détailler les programmes de Benoît Hamon, de Jean-Luc Mélenchon, qui, je le disais, sont très riches, robustes, structurés en la matière, voire les autres candidats aussi. Mais encore une question tout de même sur cette absence de débat, Dominique Bourg. Est-ce que une présidentielle n'est pas, en fait, la politique à l'ancienne dans toute sa splendeur? Le régalien, on va se régaler avec le régalien, et tout le reste est des sujets qu'on verra, qu'on traitera après l'élection, quoi.
Alors, le propre d'une présidentielle, c'est précisément de personnaliser, et puis les affaires de Fillon en ont effectivement totalement rajouté sur le sujet. Mais je voudrais encore ajouter une remarque. Il faut bien voir que c'est la première fois qu'on voit ça. Là, on a une présence de l'écologie dans tous les programmes. Enfin, en tout cas, au moins chez les plus grands candidats, mais pratiquement chez tous, hein, vous avez quelque chose. Ça, c'est... Jusqu'alors, c'était pas tout à fait le cas. Donc, on a la spécificité du programme de François Fillon. Donc, les Républicains sont anti-environnement, disons-le. Mais même lui, il est obligé de se conformer à la COP21, décarbonisation de l'énergie, etc. Donc, c'est assez intéressant. Là, on a basculé. Donc, c'est d'autant plus paradoxal, si vous voulez, que sur le fond, le sujet est là. Le sujet est dans les programmes, il n'est pas dans les médias.
Et donc, vous pensez, Dominique Bourg, et maintenant entrons dans le détail des programmes des uns et des autres, que les deux seuls à avoir cherché à penser le point de bascule dans la manière de faire de la politique, dans la manière de faire de l'écologie, dans la manière du coup de faire de l'économie, sont Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon.
Ça, c'est très clair. Alors, après, on pourra revenir parce qu'un programme, il ne faut pas simplement regarder les mesures écologiques.
Bien sûr,
aussi l'articulation avec le reste. Mais bon, sur le plan strictement écologique, effectivement, on a deux candidats pour lesquels c'est clair. Bon, la croissance, c'est fini. En fait, les fruits qu'elle délivrait, là, je fais allusion à un excellent livre d'Éloi Laurent sur notre...
On l'a reçu la semaine dernière ici.
Bonne fortune. Bah, finalement, les fruits qu'elle donnait classiquement, l'augmentation du bien-être, la réduction des inégalités, la création de l'emploi, se sont transformés en poison et ça débouche sur l'inverse. Donc on a, si vous voulez, les conditions parfaites pour être en position de réfléchir. Et bien, maintenant, c'est le moment, on prend le problème à bras-le-corps et on change. Et là, alors, chez Mélenchon, c'est très clair... Toute l'économie se repense en fonction de l'écologie. Mmh. Et chez Benoît Hamon, c'est pareil, avec peut-être un petit peu moins de maturation, mais l'idée est exactement la même. Ça, c'est exceptionnel quand même.
Et puis avec une proposition institutionnelle dont on peut penser, si on veut, qu'elle est un gadget, mais peut-être pas, d'avoir un vice-premier ministre en charge de ces questions-là aussi, qui puisse aborder les choses de manière transverse, j'imagine.
Oui, alors ça, c'est une vieille proposition qu'on trouvait dans le pacte écologique. Donc, effectivement, vous faites bien la souligner. Moi, je suis pas totalement... Vous direz pas ça, mon ami Nicolas, mais je suis pas totalement d'accord avec cette mesure, mais peu importe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut aussi...
chercher à traduire les choses institutionnellement.
Voilà, c'est qu'on veut innover sur un plan institutionnel et organiser les choses de telle sorte qu'on puisse mieux tenir compte de ces enjeux de long terme. C'est ça qu'il faut voir, et ça, c'est très bien.
Cyril Cormier, sur les programmes Hamon-Mélenchon.
Alors, sur les programmes, on voit effectivement des propositions qui vont dans le bon sens la plupart du temps. On peut noter effectivement chez Benoît Hamon parfois un manque de d'analyse sur la manière de faire, la méthode. De manière générale, chez tous les candidats, on passe à côté de choses essentielles. Je prends deux exemples, mais sur le cas par exemple de l'agriculture et de la transformation du modèle agricole vers une agriculture nourricière, respectueuse de l'environnement, rémunératrice aussi pour les agriculteurs. Personne ne vient réellement toucher du doigt un des blocages profonds qu'est le poids du lobby de l'agriculture industrielle. Et la méthode avec laquelle ce lobby se voit modérer son espace d'expression n'est pas exprimée. Sur l'énergie et le climat, il en va de même avec la question du nucléaire, où là c'est la question de EDF qui est complètement omise. Comment peut-on dire que l'on va transformer le modèle nucléaire électrique français en réduisant la part du nucléaire ou en le maintenant, sans se poser la question des capacités réelles d'EDF, qui sont extrêmement réduite financièrement avec une dette colossale de 74 milliards d'euros. Et puis sur le plan technique, ils ont perdu toute capacité. Areva EDF à aujourd'hui maintenir le parc nucléaire ou à construire de nouveaux réacteurs. Ces questions-là ne sont pas du tout abordées, ce qui entache un peu la crédibilité en réalité des propositions de l'ensemble des candidats sur l'agriculture et le nucléaire en particulier.
Allez, on retourne au standard. Je salue Patrice. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, par rapport à ce que vous avez dit d'abord au début de l'émission, vous dites effectivement, et j'étais écœuré aussi, qu'il n'y a pas eu de débat sur l'environnement, mais il faut dire aussi que les gens qui étaient chargés des débats n'ont pas posé de questions sur l'environnement. Donc ça ne vient pas forcément uniquement des hommes politiques.
Patrice, je suis d'accord avec vous. Je fais juste une petite parenthèse. Dans le cadre d'entretiens classiques, peut-on dire, toutes les questions sont ouvertes. Dès lors qu'il s'agit d'organiser un immense débat à 11, les journalistes perdent une partie de la main. Ils sont là pour faire respecter les temps de parole, ils sont là pour la fluidité des débats, mais les équipes de campagne aussi des différents candidats participent à la mise en place des différentes thématiques qui seront abordées. Donc nous, quand on est seul avec un candidat, pour le dire plus simplement, on pose toutes les questions qu'on veut. Quand il s'agit d'en faire dialoguer 11 ensemble, je peux vous dire que c'est un autre problème. Mais cela dit, là où vous avez raison, de manière symptomatique, il n'a pas été jugé utile, essentiel et urgent de mettre l'écologie parmi les sujets débattus par les 11. Je ferme la parenthèse et je vous rends la parole.
Merci beaucoup. Oui, alors, deux petites choses. Malgré les bonnes volontés souvent affichées, il y a des solutions à des problèmes environnementaux qui se heurtent trop souvent à la puissance des lobbies. Et je me demande si on ne pourrait pas envisager des commissions de contrôle citoyennes, indépendantes, qui propose ainsi une forme de démocratie participative. Vous savez que j'appelle souvent de la Meuse, nous on a le cas des déchets nucléaires, qui est un véritable scandale, je ne vais pas y revenir 107 ans. Donc ça fait 25 ans qu'on nous propose l'enfouissement de déchets avec 30 milliards d'euros à la clé, et puis 100 en train de bourrer des déchets nucléaires par an. Donc ça commence à bien faire, quoi.
Merci Patrice pour votre question qui repose celle des lobbies et de la manière dont on peut les gérer d'un point de vue civique et citoyen. Dominique Bourg.
Je trouve que la proposition d'auditeur est très intéressante parce que les lobbies, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force dans l'ombre. C'est la menace de grève, de mettre des tracteurs sur la route, etc. Et le gouvernement recule. Si effectivement vous en appelez plus largement à l'opinion, si vous en appelez à des procédures style référendaire, alors évidemment ça colle pas avec la Constitution française, mais bon, ça c'est très important, ça permet, venant d'un pays comme la Suisse où il y a par exemple les votations, ça permet de marginaliser, enfin pas toujours, attention, hein, mais ça peut permettre de marginaliser certains lobbies. C'est-à-dire si vous restez dans l'ombre, si vous faites le jeu dans l'ombre, vous êtes perdu. Si vous mettez l'influence de certains lobbies sur la place publique, au jour, ça leur est beaucoup plus difficile.
Mmh. Un mot de Cyril Cormier.
Oui, ben c'est tout à fait juste. Effectivement, contre le poids des lobbies, il faut instaurer un rapport de force qui permet de limiter leur influence sur les politiques. C'est aussi le sens de l'appel des solidarités à laquelle la Fondation Nicolas Hulot s'est jointe, à Greenpeace et 140 associations, 160 000 personnes qui ont répondu.
On a fait un grand téléphone sonne là-dessus.
Présent, et effectivement, vous aviez fait un téléphone à ce sujet. Et c'est le sens de cette démarche, c'est de dire: rejoignez-nous, la société civile, répondez présent à notre appel, non seulement en amont des élections présidentielles, mais aussi ensuite, après, pendant le quinquennat, parce qu'il faudra, à chaque instant du quinquennat suivant, être sûr que notre voix est portée, notre voix qui vise à justement introduire une économie de partage, de redistribution, des politiques intégrales d'écologie, c'est-à-dire qu'ils sont dans tous les aspects de la politique économique et sociale du pays, une démocratie renouvelée, de la solidarité internationale. Nous sommes, nous, la société civile, les citoyens qui nous soutiennent, les remparts justement contre ces lobbies, une grande partie des remparts contre ces lobbies, qui parfois ont effectivement une force très très importante dans l'État. Rappelons par exemple que sur l'énergie nucléaire, contre les énergies renouvelables, le poids d'EDF, qui est lui-même un lobby, enfin c'est l'État dans l'État. Donc parfois, il faut vraiment réunir nos forces, être très nombreux, manifester notre soutien, et c'était le sens de cet appel.
Très important.
Dominique Bourg, oui, vous vouliez juste souligner d'un coup de stabilo-boss que c'était important. D'accord. Un mot supplémentaire sur le clivage gauche-droite. On avait pu penser qu'il avait disparu, notamment après le Grenelle ou pendant le Grenelle de l'environnement, qui avait permis à tout le monde de se retrouver pendant la présidence de Nicolas Sarkozy autour d'une table, de négocier, d'avancer ensemble, de faire des points publics. Et voilà, la démarche était tout de même porteuse et donnait le sentiment que elle était au-delà des clivages. Vous dites d'une part qu'il y a de l'écologie maintenant dans tous les programmes à gauche comme à droite, mais qu'il reste malgré tout un clivage gauche-droite.
Oui, non,
alors expliquez-nous où passe le clivage gauche-droite et pourquoi il demeure.
Il est très clair, si vous voulez, du côté droite, même du côté centre. Hein,
On prend Emmanuel Macron dedans.
Il est justement à la limite, c'en est presque comique, mais bon. En fait, si vous voulez, du côté Mélenchon-Hamon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le socle du programme. Et on sait très bien que c'est nos économies, nos valeurs, nos modes de vie qu'il faut petit à petit réorienter. Et que on est dans l'urgence aussi par rapport à cette chose-là. Si vous voulez, chez les autres, non, on fait le service minimal. On pense qu'il y a un silo qui s'appelle environnement. Il faut remplir un peu le silo au cas où on aura un électeur un peu de notre côté, mais qui a une petite sensibilité de ce côté-là. Il faut quand même pas qu'il s'en aille. Hein. C'est à un prêt aujourd'hui. Et donc, on va remplir ça. Mais la logique est complètement étrangère. Totalement étrangère. Parfois, c'est même pire que ça. Dans le programme de François Fillon, on revient sur la question du principe de précaution. Alors là, permettez-moi de le dire, c'est un gag total. On ne l'a jamais appliqué en matière environnementale. On ne l'a pas appliqué pour les néonicotinoïdes, on ne l'a pas appliqué pour les perturbateurs endocriniens, on ne l'a pas appliqué pour d'autres sujets. Et pourtant, il y a une focalisation quasi obsessionnelle, maladive sur ce sujet.
Et ça, c'est un indicateur. C'est héritage Jacques Chirac, Nathalie Kosciusko-Morizet.
Qu'on balance.
Oui, c'est ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là aussi, quand je dis que...
Il s'appelle républicain maintenant, donc voilà.
Oui, bien sûr. Mais c'est ce qui empêche, sauf erreur de ma part, la fracturation hydraulique et ce genre de choses, non ? Ce principe de précaution-là, inscrit dans la Constitution.
Par exemple, en tout cas, effectivement, c'est un principe qui est fondamental par rapport à tous les problèmes, si vous voulez, par rapport auxquels on a des indices forts de dommages possibles, sans en avoir pendant un certain temps la certitude. Et en fait, ça, c'est quelque chose de chronique en environnement, ça revient en permanence. Et c'était le seul principe qui permettait d'agir quand on est dans ce genre de situation. Donc il était très très important. En plus, ils veulent lui substituer un principe d'innovation qui est déjà dans la charte de l'environnement, je le rappelle. Donc si vous voulez, c'est du marketing, et un très mauvais marketing.
Qu'en pensez-vous, Cyril Cormier, sur le clivage gauche-droite, par où il passe aujourd'hui
Alors, c'est assez surprenant, en fait, les candidats que l'on peut identifier, la posture, en tout cas, sur l'environnement des candidats de droite, parce qu'on avait vu émerger dans la primaire des Républicains des candidats qui, comme Monsieur Le Maire, Monsieur Juppé, qui montraient un intérêt, par exemple, pour le développement des renouvelables, annonçaient clairement que le nucléaire, ça commençait à être la fin, et qu'il allait falloir démanteler, passer à autre chose, développer les renouvelables. Donc, il y avait quand même une prise en compte qui venait petit à petit et qui, justement, permettait de sortir de ce clivage gauche-droite. Quand on voit les candidats officiels à la présidentielle, le programme de François Fillon, il est hors sol. C'est pas le candidat des faits sur l'environnement. Quand il parle effectivement de la remise en cause du principe de précaution pour relancer la recherche sur les biotechnologies ou sur la génétique, mais ces recherches n'ont jamais arrêté. Donc il évoque des principes qui n'existent pas.
C'est un marqueur idéologique.
C'est un marqueur idéologique.
On envoie un message.
Qui en réalité ne correspond à rien, effectivement. Quand il parle des énergies renouvelables, il dit il faut. Je n'ai rien contre les énergies renouvelables, mais je vais maintenir le parc nucléaire. Alors sur le parc nucléaire, il ignore effectivement toutes les difficultés qu'il aura à maintenir ce parc nucléaire. Et sur les énergies renouvelables, il oublie que il faut une politique volontariste si on veut imposer. Et lui, il dit. Pas d'objectif. Alors sans objectif, on n'a rien, effectivement.
Avant de retourner au standard, Marie nous attend depuis quasiment un quart d'heure, je m'en excuse. Une question sur Emmanuel Macron. On a parlé du clivage gauche-droite. Où le situez-vous en matière d'écologie que dit-il, que propose-t-il? Dominique Bourg.
Il est vraiment au centre, pour le coup. C'est-à-dire que lui, il y a un vrai programme écologique. Il y a des choses. des choses qui sont intéressantes sur la réhabilitation du bâti, sur la conversion de l'agriculture, la proposition d'un Grenelle de l'environnement. Il reprend en gros, en à peine plus, les objectifs de la loi de transition énergétique. Mais enfin, il y a quelque chose. C'était pas le cas au début. Hein. Ça s'est vraiment enrichi ces derniers mois. Et maintenant, effectivement, bon, bah, c'est les personnes qui l'accompagnent, il y a quelque chose de consistant. Après, même problème qu'avec les autres. Quelle est la, si vous voulez, la cohérence possible entre ces mesures écologiques et puis le nerf, en quelque sorte, le ressort du programme. Là, peut-être, on peut s'interroger. Mais il y a vraiment quelque chose.
Cyril Cormier.
Oui, il y a vraiment un manque de crédibilité, en fait, dans ces propositions environnementales, parce que entre le comportement qu'il a eu, notamment, on parle de la rénovation du bâti, en tant que ministre, lui-même, au moment où était votée la loi transition énergétique, freinait des cas de fer pour qu'il y ait un investissement de l'État dans la rénovation énergétique. Il parle de fermer les centrales à charbon pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais lui-même, en 2015, autorisait des explorations de champs pétroliers. Donc la cohérence entre son action très récente au sein du gouvernement et ses propositions n'existe pas. Et puis effectivement, ce problème qui est, on prend les questions environnementales au sérieux, il y a quelques propositions, mais en réalité le modèle économique reste le même. On va produire de la même manière, on va consommer de la même manière, dans les mêmes quantités. Ben, tout simplement, ce n'est pas cohérent, donc ce n'est pas crédible.
Marie, bonsoir.
Bonsoir.
Oula, vous êtes où Marie ?
Mais je suis sur la route.
J'espère que vous conduisez pas, hein.
J'espère que vous. C'est pas moi qui conduis.
Ah bah très bien. Alors c'est bon, on peut parler. Allez-y.
Oui. Alors moi je voudrais revenir à l'écologie et à l'environnement, mais d'un point de vue non pas national ou international, mais d'un point de vue local. Effectivement, moi je trouve très très intéressant le débat qui se déroule actuellement, mais d'un point de vue local, j'ai le sentiment que la prise en compte des difficultés des citoyens n'est pas à la hauteur. Nous subissons les nuisances sonores, nous subissons la pollution et moi je m'inquiète en me disant on se tourne vers les mairies, on se tourne vers les conseils départementaux et régionaux, il n'y a de l'argent nulle part. On vous dit oui les routes ce serait bien, il n'y a pas d'argent. Ben oui mais j'habite une commune, il y a une route qui passe et je ne devrais pas passer. On ne peut pas faire autrement parce qu'il faut bien que ces voitures passent. Et on a le sentiment que finalement l'écologie c'est pas pour nous. Et l'environnement c'est pas pour nous. Alors je suis inquiète parce que dans les politiques et dans l'économie, notamment vous parliez de M. Macron, moi je me dis c'est bien de supprimer les taxes d'habitation, mais comment vont se refaire les transferts au niveau local? Comment va-t-on pouvoir financer s'il y a moins d'argent qui rentre?
Merci Marie pour cette question. Prudence sur la route et réponse ici en studio sur l'échelle locale, non pas internationale, non pas nationale, disait Marie, mais locale, Dominique Bourg.
Alors, l'échelle locale est très importante. Souvent, il y a plus de dynamisme sur un plan local que sur un plan national. Maintenant, effectivement, il y a un problème de financement, mais moi, je voudrais insister sur le fait qu'il ne faut pas opposer l'échelle locale et l'échelle internationale. Les problèmes qu'on connaît aujourd'hui en matière d'environnement sont essentiellement des problèmes globaux de dégradation du système Terre. C'est là un point sur lequel le programme de Jean-Luc Mélenchon, disons, m'inquiète un peu.
Pour quelle raison ?
Il est excellent sur le plan strictement écologique, mais la posture par rapport à l'Europe est une posture de plan B, une posture de rupture possible. Or, au contraire, ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est parce que certaines choses doivent être faites à l'échelle européenne. Si la France se met, si vous voulez, l'Europe à dos, elle n'avancera pas sur ces questions qui sont avant tout des questions de coordination internationale. Et puis disons, son empathie pour la Ligue bolivarienne, pour Poutine, pour l'Iran, c'est pas des nations qui, sur un plan environnemental, sont tout à fait exemplaires. Alors qu'en Amérique latine, il aurait pu trouver d'autres ports d'attache. Donc voilà, ça fait partie aussi, si vous voulez, de la question de la cohérence. La question environnementale, ça va du local au global et ça suppose qu'on articule bien les deux et qu'on ait un élément pour essayer de faire bouger plus large, au-delà de soi-même. Ça, c'est fondamentalement important. Et on l'a plus, par exemple, chez Benoît Hamon, qu'on ne l'aura de ce fait-là chez Jean-Luc Mélenchon, alors que sur le plan strictement environnemental, son programme est mieux fait. La règle verte, il faudra en parler, c'est vraiment très important. La planification écologique, justement pour nos affaires de bâti, d'énergie, etc., c'est fondamental. Donc c'est vraiment dommage. Mmh.
Cyril Cormier.
C'est vrai que la dimension territoriale est complètement absente des problèmes des candidats, hein, faut être honnête. Ils ne pensent que à l'échelle nationale, parfois les relations avec l'Union européenne. Alors, ce que dit Dominique Bourg est tout à fait juste, c'est-à-dire que les dynamiques que l'on peut observer au niveau national, en termes de législation, etc., de normes, sont importantes. Les dynamiques que l'on peut aussi obtenir au niveau de l'Union européenne sont importantes. Rappelons, par exemple, le paquet énergie-climat en 2009 avait imposé aux différents États, à la France, la première, d'agir sur les questions environnementales, sur les dérèglements climatiques, sur la production d'énergie renouvelable, la sobriété et l'efficacité. Mais ça a du mal à retomber dans les territoires, alors que c'est une aubaine pour les territoires. Quand on parle de transition écologique, de développement des énergies renouvelables ou de rénovation énergétique des bâtiments, ben on parle d'emploi et d'activité économique local, tout est relocalisé, les retombées économiques sont là. Quand on parle d'une agriculture écologique, on parle de relocalisation. Donc on parle vraiment de choses qui renforcent le tissu économique territorial. C'est une aubaine pour les États aussi parce que ça permet de gérer à une échelle locale ce qu'eux ne sont plus capables de gérer à l'échelle nationale. Il faut voir que les territoires, les collectivités territoriales sont très en demande de liberté, de capacité de mettre en œuvre tous ces grands programmes. Et c'est là où l'État pêche. Et c'est vrai que de ne pas retrouver cette dimension dans les programmes d'un candidat est effectivement très problématique.
Vous voulez dire un mot, Dominique?
On est totalement d'accord. Et effectivement, ce qui est vraiment important, c'est redonner notamment aussi en matière énergétique du pouvoir au local. Le renouvelable se développera d'autant plus qu'il est associé à des initiatives citoyennes, y compris sur un plan pécuniaire.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Montpellier, bienvenue.
Merci. J'appelais pour témoigner sur le fait que économie et écologie peuvent parfois faire excellent ménage. J'ai créé une entreprise qui a aujourd'hui 10 personnes et qui propose des équipements permettant de produire du biogaz tout en triant le principal sous-produit, les digestats, pour récupérer de l'eau et pour récupérer des fertilisants de façon à avoir une économie circulaire très locale autour des unités de production de biogaz. Et je fais partie des indécis car effectivement j'entends pas beaucoup parler d'écologie mais en pratique je suis très optimiste sur la mise en œuvre de solutions qui notamment permettent de créer l'emploi localement. Nous construisons nos équipements en France et nous les mettons en œuvre.
Merci beaucoup Emmanuel. Dominique Bourg.
Il y a un absent dans tous ces programmes, c'est la question de l'économie circulaire, justement ce que fait cet industriel. Et ça suppose
Expliquez-nous.
Alors, une économie circulaire, si vous voulez, l'économie linéaire, c'est extraction d'un côté, accumulation de déchets de l'autre. Alors, au sens très, très, très général, c'est du CO2, ce qui est pas en soi un déchet. Donc, une économie circulaire, c'est une économie qui va extraire beaucoup moins. Et puis, en fait, c'est aussi une économie qui va se mettre sous la tutelle, pourrait-on dire, de l'empreinte écologique, d'une certaine manière. Vous savez, il y a eu en septembre dernier une votation en Suisse qui était très intéressante, où les Verts suisses avaient proposé, donc, au peuple suisse d'introduire dans la constitution helvétique un paragraphe qui aurait obligé la Suisse en 2050 à être à une planète au prorata de sa population. En fait, c'est l'esprit de la règle verte de Mélenchon. Et chez Mélenchon, il y a justement des propositions sur la question de la fiscalité, sur un différentiel en termes de TVA, en fonction de la manière dont sont faits les produits. Donc en fait, lui a le programme, si vous voulez, le plus mature. C'est pour ça que je trouve d'autant plus dommageable ce que j'ai signalé.
À savoir une sortie possible ou l'hypothèse d'une sortie...
Oui, ce qui n'a aucun sens. 80% du droit environnemental est européen. Et puis, de toute façon, là, on a une espèce de régression depuis quelques années. Mais au contraire, ce qu'on pourrait attendre d'une France renouvelée, c'est de faire repartir l'Europe dans une direction écologique. S'ils voulaient faire des panneaux photovoltaïques, c'est à l'échelle européenne. Donc, c'est vraiment idiot. C'est, si vous voulez, c'est une occasion totalement manquée.
Cyril Cormier.
Non, j'ai rien à rajouter, effectivement, sur les vertus de l'économie circulaire. C'est l'exemple que je donnais aussi juste avant, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'activités économiques propices à la transition environnementale ont toute leur place à l'échelle locale, avec le soutien, bien entendu, des institutions européennes. C'est là l'importance de l'Europe, en réalité. C'est que sortir de l'Europe, comme certains le proposent, c'est en réalité se couper de la possibilité de faire avancer plus rapidement des normes environnementales, parce qu'il faut bien comprendre que l'Europe est quand même un des territoires mondiaux les mieux disants. Alors c'est difficile pour moi de le dire en tant que ONG environnementale, de montrer l'Europe en exemple, alors qu'assez souvent on les attaque sur cette insuffisance des normes, mais en réalité nous sommes l'Europe parmi les mieux disants en termes globaux, et donc c'est important, ça permet de faire avancer des États, et puis il y a des États comme la France aussi qui parfois sont en avance et qui peuvent faire avancer des agendas à l'échelle européenne. Donc cette présence de la France à l'échelle européenne est extrêmement importante, y compris quand on parle d'économie circulaire au plus profond des territoires.
Tout à fait.
Précision, je vois sur mon écran une demande de précision, Dominique Bourg, sur la règle verte de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pouvez en décrire le mécanisme?
C'est exactement celui de l'emprunt tel que je viens de dire. C'est-à-dire c'est à la fois ne pas consommer plus au prorata de sa population que ce que la planète produit en une année, et puis ne pas lui faire assumer plus de déchets, de flux divers qu'elle ne peut encaisser en une année. C'est la même idée.
Bien compris. Un mot, Cyril Cormier?
Oui, il restera à décrire les mécanismes opérationnels pour justement vérifier cette règle verte. Quels indicateurs, qui les vérifiera et comment ce sera mis en œuvre? Pour l'instant, ça reste un principe, pas encore
un principe constitutionnel,
décrit en termes politiques.
Xavier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Voilà, ma remarque, c'était... bonsoir et merci. Ma remarque, c'était suite au renoncement par Madame Ségolène Royal à la mise en application de l'écotaxe, qui était une source de financement stratégique pour toute politique environnementale. Je crois que le politique s'est mis de toute façon dans une situation d'impuissance qui recouvre un peu tous les partis. Donc il y a beaucoup de discours, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de financement derrière. Voilà.
Et de volonté politique, dites-vous, Xavier, ou de, comment dire, la difficulté à mettre en œuvre les choses, c'est bien cela?
Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y avait une loi qui avait été votée par une large majorité au Parlement, au-delà de tous les clivages partisans. Et il y a eu une trentaine de, je vais caricaturer un peu, une trentaine de bonnets rouges qui ont montré leur museau. Et cette loi n'a pas été mise en application. Donc on voit difficilement qu'est-ce qui pourrait être fait pour financer quelque chose qui soit une vraie politique environnementale. Voilà.
Merci beaucoup, Xavier. Dominique Bourg.
Ça pose un énorme problème. C'est-à-dire que, si vous voulez... écologiser une nation, écologiser une économie, ça suppose un pouvoir qui dispose d'une grande légitimité, ça suppose un pouvoir qui sache dialoguer, discuter, et qui fasse vraiment le départ entre une opposition à un moment donné, et puis la manière dont on met en œuvre des politiques de long terme. Là, en l'occurrence, c'était une... J'ai pas bien compris ce qui s'est passé dans cette affaire. C'est une espèce de recul ensuite avalisé avec un coût pécuniaire énorme. C'est assez difficilement compréhensible. Mmh.
Cyril Cormier, écotaxe et bonnet rouge.
Oui, bah effectivement, sur une grande partie de ce qu'on appelle la fiscalité environnementale ou sur la transformation du système de transport, on sent beaucoup de résistance. C'est toujours très difficile. Et je pense que ce qu'il faut cesser, c'est de donner l'impression que l'écologie et les transformations sociétale qu'elle va imposer, ce sont des contraintes. En réalité, ce sont des énormes opportunités. Certes, il va falloir changer un certain nombre de choses, mais les Français l'ont bien compris. De toute façon, un certain nombre d'entre eux sont privés d'ores et déjà d'emplois dans un système ou de revenus quand on est agriculteur, ou de conditions sanitaires satisfaisantes quand on est agriculteur. Donc, il y a de toute façon des problématiques auxquelles sont confrontés les gens, et ils ne sont pas du tout dans le refus du changement, mais ils sont pour la compréhension de ce à quoi cela va servir. Et si on n'explique pas le grand projet dans lequel on s'inscrit, celui de retrouver des projets industriels qui sont conformes à des contraintes environnementales et qui sont la création, qui vont vers la création d'emplois et la fourniture de revenus suffisants pour tous les acteurs des différentes filières, tant qu'on ne fera pas ça, il y aura toujours des résistances. Et effectivement, on a vu que ce soit sur l'écotaxe, que ce soit sur la transformation du système électrique français ou dans l'agriculture, à chaque fois, il y a des opposants et à chaque fois, on voit un gouvernement qui recule, qui a peur parce que il ne s'est pas doté des arguments suffisants, il n'a pas suffisamment expliqué les avantages, les opportunités que cela pouvait créer.
Quelle lecture faites-vous, Dominique Bourg, de tout ce qui est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon lié à l'économie de la mer, l'économie maritime ?
Alors, chez Jean-Luc Mélenchon, l'aspect sur l'économie maritime, là, si vous me posez une colle, hein, je l'ai
mais
pas.
Mais il y a l'idée que la France.
C'est un pays, effectivement, voilà, qui a la plus grande. Le linéaire côtier.
Voilà, hein, qui a des ressources et qui a un monde économique et un monde de développement à partir de là, de cet état de fait géographique.
On trouvera aussi dans le programme de Jean-Luc Mélenchon des choses un peu comme ça sur l'espace. On n'est pas toujours certain de la cohérence. Parce que si vous voulez, la mer, c'est une véritable catastrophe aujourd'hui. C'est un effondrement. Vous avez une acidification, une désoxygénisation, ça on s'en est aperçu, un effondrement des populations, une invasion par des types de populations genre méduses, pas tout à fait très, très agréable. Donc si vous voulez, si vous avez un milieu dont on aurait pensé qu'il resterait indéfiniment indemne, tellement il est vaste, et qui en fait est devenu une espèce de dépotoir, ce sont les mers. Alors ensuite, après, si vous voulez, il y a beaucoup d'ambition en termes miniers, etc. Donc j'aimerais bien voir exactement qu'est-ce qui est dans le détail, dans le programme. Ça, je ne l'ai pas vu, j'ai quelques inquiétudes.
Et vous, Cyril Cormier, sur la mer ?
Alors oui, sur le sujet de l'économie de la mer, on voit poindre l'ancien modèle un peu économique, productiviste, la relation un peu productiviste à l'environnement. Moi, je trouve ça dommage que dans ce programme de Jean-Luc Mélenchon, qui par ailleurs a de grandes qualités, on parle de l'économie de la mer plutôt que de la protection des milieux marins.
C'est ça l'urgence.
C'est ça l'urgence. Effectivement, ce que Dominique Bourg rappelait est juste. Alors oui, la pêche artisanale plutôt que la pêche industrielle. Oui, le développement des énergies marines, tout cela, d'accord. Mais c'est surtout l'action de la France, qui effectivement, avec toutes ses côtes, est un pays maritime et donc a vocation à défendre la protection de l'environnement marin. Alors pourquoi se restreindre à l'économie ? C'est effectivement une approche, qui participe à l'ancien modèle,
oui,
on va dire.
Mais il y a peut-être une économie de la protection de la mer.
Ah oui, ça
sent décrite.
Elle n'est pas manifeste dans le programme. Mais ça, c'est vrai.
Une dernière question rapide. Marie-Françoise nous dit qu'elle aimerait acheter une voiture écologique. Sur le marché, on ne nous propose pas, pas grand-chose de très très bien. Donc même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut rien faire. Et les grands groupes automobiles continuent à faire de la publicité pour le diesel. Il nous reste très peu de temps. Qui veut répondre sur ce point ? Cyril Cormier ?
Oui, effectivement. Alors sur les transports, c'est assez, à part, là encore, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon qui parlent de la transformation du système de transport en France, de les développements du rail, la réduction de la part de l'empreinte de la voiture de manière générale dans notre économie. Les autres font complètement abstraction du diesel. François Fillon, Marine Le Pen n'en parlent absolument pas du diesel, la qualité de l'air, des émissions de gaz à effet de serre. Effectivement, il y a un certain nombre de candidats pour lesquels il n'y a pas de problématique de ce côté-là, et c'est quand même très problématique.
Merci beaucoup Cyril Cormier, chargé des questions énergie et climat à Greenpeace. Merci Dominique Bourg, philosophe vice-président de la Fondation Hulot, auteur du dictionnaire de la pensée écologique. Merci aux très nombreux auditeurs d'Inter qui étaient là encore ce soir pour ce nouvel épisode de la campagne invisible.